Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 10 juillet. Au sommaire de cette édition, nous avons un spécial Europa, spécial Viktor Orban. On aura aussi notre rubrique hebdomadaire rétro. On revient sur un événement qui s'est passé en 10 juillet. Dans la baie d'Auckland, le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, a été coulé un 10 juillet. C'est un événement sur lequel on va revenir dans le programme. Mais avant cela, l'actualité de ce samedi. Le nombre des cas de COVID-19 transmis localement continue d'augmenter à Nouvelle-Galles du Sud. Et Pfizer en pourparlers avec des responsables de la santé des États-Unis au sujet d'une troisième dose de vaccin. Et le variant Delta désormais majoritaire en France. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 50 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement, dont 26 étaient infectieux dans la communauté. La première ministre Gladys Berejiklian a mis en garde la population contre la violation des restrictions et a exhorté les gens à ne pas mentir au personnel qui se charge de tracer les contacts.
At least two very concerning examples where people have chosen to flout the rules have had parties, because every time you consider breaking the rules, doing something wrong, you are affecting not just you, your closest family, your closest friends, but all of us. And one message I really want to get across to people who have been diagnosed, please tell us the truth the first time round. Eventually, our health contact tracers get to the truth. Please tell the truth from the first minute.
Le Grand Sydney est toujours soumis à des restrictions sanitaires strictes. Les déplacements y sont limités à un rayon de 10 km. Du lieu de résidence. Et deux personnes seulement sont autorisées à faire de l'exercice ensemble, tandis qu'une seule personne de chaque ménage peut quitter la maison pour faire les courses essentielles. Madame Berejiklian a également demandé aux résidents de Nouvelle-Galles du Sud de ne pas faire attention aux commentaires qui circulent concernant la durée du verrouillage, mais plutôt d'écouter les conseils de santé au fur et à mesure. Selon Gladys Berejiklian, le verrouillage se poursuivra aussi longtemps que les recommandations sanitaires l'exigeront. Entre-temps, l'opposition fédérale appelle le gouvernement fédéral à fournir plus de soutien financier aux personnes touchées par les restrictions sanitaires imposées dans différents États, en particulier celui actuellement en vigueur dans le Grand Sydney. Le chef de l'opposition, Anthony Albanese, a cité le premier ministre Scott Morrison, qui avait annoncé que la plupart de la population avait une certaine réserve pour traverser la pandémie. Monsieur Albanese a qualifié les propos du premier ministre de déconnecté.
The fact is that it is casual workers, it's people who are losing their income, who are most likely to have no savings whatsoever, who are struggling as a result of this lockdown, and the Prime Minister's offering them no support. He's pointing towards national accounts as if that makes a difference to an individual's budget in terms of paying the rent, paying for food, looking after their family.
Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a mis de côté 1,4 milliard de dollars pour les subventions aux petites entreprises. Les entrepreneurs de Nouvelle-Galles du Sud pourront recevoir entre 5 000 et 10 000 dollars. Les personnes qui ont perdu leur travail peuvent demander de leur côté des paiements fédéraux en cas de catastrophe, mais vous devez vivre dans la région du Grand Sydney, être titulaire d'un visa de résident ou de travail et disposer de 10 000 dollars ou moins d'économie. Et les autorités de Tasmanie ont publié une liste des sites d'exposition visités par un agent de santé de l'hôpital général de Launceston qui a été testé positif au COVID-19 deux jours après avoir quitté l'Australie. Alors que la plupart des sites se trouvent à Launceston, d'autres sites se trouvent dans le sud de la Tasmanie. Toute personne ayant visité ces sites d'exposition est considérée comme un contact occasionnel et doit s'isoler immédiatement et organiser un test COVID. Il a été annoncé hier que le travailleur avait été testé négatif avant de quitter la Tasmanie, mais a rendu un test positif à son retour chez lui à Londres. Et le Victoria, de son côté, n'a enregistré aucun cas de COVID-19 acquis localement au cours des dernières 24 heures. Mais on signale que 3 cas ont été répertoriés en quarantaine à l'hôtel. Des restrictions de voyage s'appliquent toujours aux voyageurs en provenance du Grand Sydney, classifiés comme zone rouge, selon le système de permis de voyage du Victoria. La ville de Brisbane, à les environs de Moreton Bay et la Sunshine Coast dans le Queensland, ainsi que les régions rurales de Nouvelle-Galles du Sud, resteront encore catégorisés comme zone orange, nécessitant un test COVID-19 négatif pour pouvoir entrer au Victoria. Pendant ce temps, les résidents d'autres parties du Queensland, du territoire du Nord et de Perth pourront entrer au Victoria sans restrictions sanitaires à partir de ce dimanche. Le Queensland n'a également enregistré aucun cas de COVID-19 acquis localement, mais il compte 5 cas positifs en quarantaine à l'hôtel. Cela survient alors que le territoire de la capitale australienne, la ACT, marque un an depuis son dernier cas COVID-19 acquis localement. Et en France, le variant Delta représentera 50% des contaminations dès ce week-end, ce selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et selon le conseil scientifique, la couverture vaccinale est encore trop faible. Si le président Emmanuel Macron s'adressera à un nouveau conseil de défense lundi prochain, la vaccination obligatoire pour les soignants sera abordée à cette occasion. Et aux États-Unis, le fabricant du vaccin Pfizer a demandé l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin COVID-19. Cependant, les autorités sanitaires américaines affirment qu'un rappel n'est pas encore nécessaire. Pfizer affirme qu'une troisième injection pourrait considérablement renforcer l'immunité et aider à prévenir l'infection par la variante Delta. Les responsables de la santé des États-Unis ont publié une déclaration disant qu'ils auront besoin de plus de données avant d'autoriser le troisième rappel. Le docteur Steven Schrantz, expert en médecine infectieuse à la faculté de médecine de l'Université de Chicago, affirme que la réflexion proactive suivie par Pfizer est la seule voie à suivre.
Pfizer is being proactive and thinking, okay, we know that this Delta variant is significant. We know it's more transmissible. This is science in motion. And there's always going to be debate about the best way to proceed. And trying to predict the future, as we've already noted over the last 16 months of this epidemic, is really hard. And so continuing to be active and thinking proactively about how to prevent this going forward is really important.
Entre-temps, des scientifiques à Cuba ont signalé que leur vaccin national Soberana contre le COVID-19 est efficace à 91% après la troisième dose. L'organisation de réglementation du pays a approuvé le vaccin pour une utilisation d'urgence, ouvrant la voie à une vaccination de masse au moment où les taux d'infection augmentent sans relâche. Abdallah, l'autre vaccin cubain contre le COVID-19 a un taux d'efficacité rapporté de 92%. Les deux vaccins cubains ont un calendrier de 3 doses avec des intervalles de 14 jours entre les injections. Depuis le début de la pandémie, Cuba a enregistré plus de 220 000 cas confirmés de COVID-19 et 1451 décès. Retour en Australie où le système informatique du ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Galles du Sud sont revenus en ligne 2 jours après avoir été paralysés par une cyberattaque. Cela est arrivé au moment où les enseignants se préparent pour les cours en ligne et le début d'un nouveau trimestre, lundi prochain, donc lundi 12 juillet. Les élèves de Nouvelle-Galles du Sud devraient retourner dans leurs écoles le mardi 13 juillet. Un certain nombre de systèmes internes avaient été désactivés mercredi pour protéger les données des étudiants et du personnel suite à la détection d'une cyberattaque. La ministre de l'Éducation de Nouvelle-Galles du Sud, Sarah Mitchell, a remercié le personnel pour sa patience tout en précisant que les systèmes allaient être remis en ligne progressivement au cours des prochaines 24 heures. Et le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le président russe, Vladimir Poutine, coopère et prenne des mesures contre la cybercriminalité en Russie. La dernière cyberattaque liée à un groupe basé en Russie a provoqué des perturbations généralisées le week-end dernier.
Well, I made it very clear to him that the United States expects when a ransomware operation is coming from his soil, even though it's not sponsored by the state, we expect them to act if we give them enough information to act on who that is.
Joe Biden affirme que les États-Unis ont le droit de défendre leur peuple et leurs infrastructures. Cette déclaration intervient moins d'un mois après la rencontre des dirigeants russes et américains à Genève, lors desquels Joe Biden avait mis en garde Vladimir Poutine contre la poursuite des cyberattaques émanant de Russie. Et le nombre de morts dans l'effondrement d'un immeuble d'appartements en Floride est passé à 79 victimes. 61 autres personnes sont toujours portées disparues. Les secouristes se concentrent désormais sur la recherche des restes plutôt que sur les survivants et se sont engagés à poursuivre leur recherche jusqu'à ce qu'ils aient déblayé tous les débris sur le site. La maire du comté de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, a déclaré qu'un chat de compagnie qui vivait au 9e étage de l'appartement effondré avait été retrouvé près du site et rendu à sa famille. Et retour en Australie pour un coup d'œil météo à travers les principales villes. Perth 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 13, Hobart 12 degrés, Canberra 12, Wollongong 16, Sydney 15, Newcastle 16, Brisbane 20 degrés, Cairns 27 et Darwin 33 degrés. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi, le nombre de cas de COVID-19 transmis localement continue d'augmenter en Nouvelle-Galles du Sud. Et Pfizer a pour parler avec des responsables de la santé des États-Unis au sujet d'une troisième dose de vaccination. Et le variant Delta majoritaire en France de ce week-end.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
L'actualité sportive de ce samedi, on commence avec le tennis. Le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, s'est qualifié pour sa 7e finale à Wimbledon en battant le Canadien Denis Shapovalov en 3-7, 7-6, 7-5, 7-5. Djokovic a félicité son adversaire pour sa première demi-finale du Grand Chelem, tout en ajoutant qu'il s'attend à voir beaucoup plus de Shapovalov, joueur de 22 ans, à l'avenir.
Once you step out on the court, particularly at the later stages of an event that I always dreamed of winning, and you know, the dream keeps going. That's all I can say. I mean, I'm trying to take out the maximum of my own abilities every single match and see what happens. Giving up is never an option.
Djokovic se dirige ainsi vers un 20e titre du Grand Chelem, le mettant à égalité avec Rafael Nadal et Roger Federer. Par la même occasion, le Serbe s'approche d'un Grand Chelem historique. En finale, donc, il rencontrera l'Italien Matteo Berrettini, qui lui s'est imposé dans sa demi-finale contre le Polonais Hubert Hurkacz en 4-7, 6-3, 6-0, 6-7 et 6-4. Matteo Berrettini, 9e joueur mondial, jouera sa toute première finale de Grand Chelem. Il est le premier Italien à jouer la finale à Wimbledon. Et toujours à Wimbledon, les joueurs de tennis australiens Ash Barty et Dylan Alcott se sont également qualifiés pour la finale après de puissantes performances en demi-finale. Ash Barty, première joueuse mondiale et la première australienne en 41 ans, a représenté l'Australie à ce niveau après avoir battu Angelique Kerber 6-3, 7-6. En finale, ce samedi, Ash Barty affrontera la Tchèque Karolina Pliskova, elle-même ancienne numéro 1 mondiale. Barty dit qu'elle est honorée d'être la première finaliste australienne depuis son idole et mentor, Yvonne Goolagong, qui avait remporté le titre à deux reprises en 1971 et en 1980.
It's a very, a really special anniversary for Yvonne, and I couldn't be more proud to be in a position to wear an outfit inspired by her, and now to kind of give myself a chance to create some history in a way that's a tribute to her is really exciting, and I couldn't be more rapt to have that opportunity on Saturday.
De son côté, Dylan Alcott poursuit sa quête de remporter le Grand Chelem, soit quatre titres majeurs pour compléter ses deux couronnes paralympiques. Et l'Australien Nick Kyrgios s'est retiré des Jeux olympiques de Tokyo après l'annonce par les organisateurs que les Jeux se dérouleront sans spectateurs. Kyrgios dit ne pas se sentir à l'aise de jouer sans une foule de supporters dans les stades. Il a également suggéré qu'une blessure abdominale était un des facteurs dans son retrait. Les JO de Tokyo se dérouleront donc sans spectateurs. Beaucoup de joueurs ne semblent pas apprécier, mais ils iront tout de même à Tokyo disputer des épreuves pour lesquelles ils se sont entraînés pendant des années. Cédric de Oliveira a rencontré des membres de l'équipe olympique française pour avoir leur avis.
Les sportifs se sont fait une raison, comme le cycliste Benoît Cosnefroy qui fera partie de l'équipe de France de course sur route.
Forcément, c'est une partie du partage qui est en moins, et le public fait partie des Jeux olympiques. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est en temps que Covid et il faut s'adapter. Donc la compétition a lieu, donc voilà, le côté sportif reste présent. Et c'est bien le principal pour moi, c'est pour ça que j'y vais. Mais donc voilà, après c'est sûr que c'est pas des conditions idéales ni pour le Japon qui nous accueille et qui prépare ça depuis plusieurs années. Donc voilà, la fête va être différente, mais le côté sportif va rester présent.
Annie Gasnier de RFI a elle aussi souligné l'engouement des footballeurs français de porter les couleurs nationales aux JO de Tokyo malgré les circonstances.
Florian Thauvin, champion du monde, n'est-ce pas, en 2018, et surtout André-Pierre Gignac, lui, vice-champion d'Europe. Ils porteront les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. Alors même si le stade sera vide, André-Pierre Gignac a dit, bon, il y aura une ambiance quand même de village olympique. Dommage, pas de communion avec les supporters, mais on défendra les couleurs de la France.
Et toujours dans l'actualité des JO, mais cette fois-ci concernant les Jeux Olympiques d'hiver, eh bien, l'ancienne championne olympique Lindsey Vonn plaide pour que les athlètes soient autorisés à protester loin du podium pour les questions des droits de l'homme. La médaille d'or en ski 2010 affirme que les manifestations aux Jeux Olympiques peuvent être un catalyseur majeur de changement.
If athletes want to boycott, that's their prerogative and their right. You're on the podium with two other people that have equally given their life to be in that position. You don't want to take away from that, from their victory and from their success. So I think in the way that the Olympics has struck that balance is a good one, you know, without losing the history and the respect of the games, but also, again, giving them the opportunity to speak their mind.
Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 se tiendront à Pékin. Les organisateurs et les pays hôtes ont été critiqués pour des violations présumées des droits de l'homme. Certains groupes ont même appelé les athlètes à boycotter l'événement. Et au football, jeudi soir, l'Angleterre s'est imposée 2-1 dans son match de demi-finale de l'Euro face au Danemark. L'Angleterre jouera en finale contre l'Italie demain soir à Wimbledon, soit 5h du matin, heure australienne. Toujours dans le domaine du football, Olivier Giroud est en passe de rejoindre Milan après des contacts infructueux la saison passée. Un transfert évalué à un peu plus de 2 millions d'euros au terme d'une saison non sans histoire. Antoine Grenier.
Il aura attendu de tout perdre pour finalement décider de partir. Abonné aux bandes touches à Chelsea, Olivier Giroud a connu cet été celui de l'équipe de France. Inquiet du manque de temps de jeu de son buteur, Didier Deschamps, qui lui avait témoigné toute sa confiance jusqu'en mars, a finalement décidé de mettre Giroud sur la touche et de rappeler Karim Benzema. Situation mal vécue par l'ancien Montpelliérain, une amertume qui a même viré à la polémique lorsqu'après son doublé en amical d'avant Euro contre la Bulgarie, Giroud s'était plaint que Kylian Mbappé ne le cherchait pas assez sur le terrain. Une polémique que les Bleus avaient tenté tenté d'éteindre, mais symptomatique des tiraillements au sein du groupe France. Après l'élimination en huitième de finale de l'Euro, le départ annoncé de Giroud pour Milan acterait un autre échec sportif. Échec relatif, car avec Chelsea, le meilleur buteur en activité de l'équipe de France a remporté une Ligue Europa, une FA Cup et surtout la Ligue des Champions, en étant au passage le meilleur buteur des Blues dans la compétition cette saison. Mais un palmarès en trompe-l'œil, car Giroud n'a bénéficié que d'un temps de jeu réduit, bien loin de ses 6 années à Arsenal où il avait dépassé la barre des 100 buts. À Milan, Giroud retrouverait donc le terrain et il est attendu de pied ferme par un certain Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois déclarait il y a quelques semaines que la venue du Français serait une très bonne chose, tout en précisant dans le plus pur style zlatanesque qu'il n'y avait qu'un seul dieu à Milan. Et que c'était lui.
Et au cyclisme, 13e étape hier du Tour de France dans les rues de Carcassonne, une étape remportée par le Britannique Mark Cavendish. Le coureur britannique, qui a signé son 4e succès cette année sur le Tour, a aussi égalé le record d'Eddie Merckx avec 34 victoires sur la grande boucle. Journée plutôt tranquille pour le porteur du maillot jaune, Tadej Pogačar, qui conserve son maillot jaune. Ce samedi, les coureurs attaqueront les Pyrénées. Je vous signale que vous pouvez suivre toutes les étapes du Tour de France sur la télé SBS. Vous pouvez aussi apprendre quelques nouvelles inédites et insolites du Tour dans l'émission Bonjour le Tour, co-animée par notre confrère Christophe Mallet. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi, suite du programme après la pause.
J'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
C'était à bicyclette avec Yves Montand, un morceau qui nous arrive sur les antennes de la radio SBS à 13h25 et 33 secondes. Dans notre programme, donc tout de suite après la pause, nous allons avoir notre rubrique rétro. Et cette semaine, on revient sur le Rainbow Warrior, un navire de Greenpeace qui a été coulé par les services secrets français. S'opposer, Greenpeace qui s'opposait à la politique française des essais nucléaires dans la région du Pacifique.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes le 10 juillet. Le 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior de l'organisation Greenpeace coulait dans la baie d'Auckland en Nouvelle-Zélande après 2 explosions. Bilan, 1 mort, et un scandale d'État qui allait très vite se révéler. Le Rainbow Warrior a été coulé par les services secrets français. Un ordre venu d'en haut pour nuire à Greenpeace qui protestait contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. C'est notre rétro sonore du jour avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace.
Le 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior, navire amiral du mouvement écologiste Greenpeace, est écoulé dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il s'apprêtait à partir en campagne contre les essais nucléaires français, dans le Pacifique.
C'est la première fois qu'une telle action est lancée contre Greenpeace.
C'est la première fois que Greenpeace a eu un mort, même un blessé grave. Et c'est certainement la première fois qu'on a éprouvé ce genre d'expérience.
Pour nous, c'était un acte de terrorisme d'État. Nous avons été extrêmement choqués. Jamais nous n'aurions imaginé que le gouvernement français en viendrait à faire sauter l'un de nos bateaux.
Le 10 juillet 1985, un homme est mort, un bateau a été coulé et les services secrets français ont fait naufrage. Ce jour-là, dans la baie d'Auckland, 2 bombes collées sur la coque du Rainbow Warrior, le navire de Greenpeace, explosent à 3 minutes d'intervalle. Après la première détonation, l'équipage a pu évacuer le bateau. Mais le photographe néerlandais Fernando Pereira n'en a pas le temps, il est tué dans la deuxième explosion. Si la France s'en est pris à Greenpeace, c'est parce que l'organisation écologiste combattait alors les essais nucléaires menés dans les atolls du Pacifique. Greenpeace comptait se rendre une nouvelle fois sur place avec son navire, inacceptable pour l'armée française.
Cet attentat coûta la vie à un photographe, Fernando Pereira.
Combien d'agents français ont échappé à la prison? Pour ma famille et moi,
Ce n'est pas ce qu'on appelle la justice.
Malgré l'identification rapide de deux équipes d'agents secrets français présents en Nouvelle-Zélande, celle du voilier Ouvea et celle des faux époux Turange, le pouvoir politique, alors socialiste, sous la présidence de François Mitterrand, nie toute responsabilité.
Et aujourd'hui, en effet, à l'occasion d'une visite au centre de transmission des forces nucléaires de la marine, M. Charles Hernu, le ministre de la Défense, qui est l'un des personnages clés de cette affaire, puisqu'il commande, entre autres, les services secrets, a déclaré tout net qu'il n'avait jamais songé à démissionner.
Vous allez démissionner? Écoutez, votre question est tellement drôle.
Oui,
oui, c'est ça. Écoutez, non, j'ai pas songé, j'ai pas écrit même des brouillons de lettres.
Le 12 juillet, deux jours seulement après l'explosion du Rainbow Warrior, deux suspects sont arrêtés par la police néo-zélandaise. Ils se font passer pour des touristes suisses, les époux Turange. Mais en réalité, ce sont deux agents français de la DGSE. L'affaire éclate au grand jour. Mais on parle encore d'une simple hypothèse.
Le responsable de l'attentat contre le bateau de Greenpeace est peut-être un Français, la police de Nouvelle-Zélande.
Pourtant, plus le temps passe au cours de cet été 85, plus l'étau se resserre autour des services secrets français. La Nouvelle-Zélande lance un mandat d'arrêt contre une deuxième équipe de la DGSE. À Paris, cependant, le ministre de la Défense, Charles Hernu, nie toute implication de ses services.
Aucune organisation dépendant de mon ministère.
Mais les révélations continuent. En septembre, le journal Le Monde démontre que c'est une troisième équipe. On saura plus tard qu'elle était sans doute dirigée par Gérard Royal, le frère de Ségolène Royal, qui a posé les bombes. Le scandale est absolu, Charles Hernu démissionne, c'est le fusible. Le Premier ministre admet enfin l'évidence.
Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre.
Mais qui a donné cet ordre ? L'amiral Lacoste, alors patron de la DGSE, affirmait il y a 10 ans que c'est François Mitterrand lui-même qui avait décidé cette opération.
J'ai tenu personnellement à vérifier auprès de lui que ce n'était pas seulement une initiative de son ministre de la Défense et que Charles Hernu lui en avait bien parlé et il m'a confirmé qu'il était bien au courant, voilà.
Le Rainbow Warrior, qui en pleine nuit coulait dans le port de Klang, un scandale qui aura de profondes répercussions. Après des années d'opacité, on sait désormais que l'ordre de cette opération de sabotage pour empêcher les militants de Greenpeace de perturber les essais nucléaires de Mururoa, eh bien cet ordre a bel et bien été donné au plus haut niveau. L'amiral Lacoste l'affirme, l'accord venait de François Mitterrand lui-même.
Edoui Plenel était à l'époque journaliste d'Investigation au Monde. C'est lui qui avait révélé l'existence de la troisième équipe.
Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire, il n'y aura pas d'audition publique, rien ne sera mis sur la table et le principal responsable, c'est-à-dire le président de la République de l'époque, le chef des armées, François Mitterrand, non seulement en réchappera, mais sera réélu, alors que dans une démocratie normale, eh bien, il aurait dû faire face à sa responsabilité politique de donneur d'ordre.
Le général Saunier, il était chef d'état-major particulier du président de la République. Il reconnaît avoir débloqué les fonds nécessaires à l'opération, mais dit-il, cela ne devait être qu'une mission de renseignement. Ses consignes étaient-elles en fait plus musclées, ou lui aussi s'est-il contenté de transmettre des consignes venues d'ailleurs, venues des responsables politiques? Parmi eux, un homme est particulièrement mis en cause, Charles Hernu. Mais dans sa lettre de démission figure déjà sa réponse à toute accusation. « On lui a menti », dit-il. Une chance de répondre à toutes ces questions est peut-être déjà partie en fumée. Certaines pièces du dossier Greenpeace auraient été détruites à la DGSE.
Les seuls condamnés par la justice néo-zélandaise en novembre 85 furent les faux époux Turange, Dominique Prieur et Alain Maffard. Remis aux autorités françaises au bout de quelques mois, ils purgèrent une partie de leur peine en Polynésie. L'un et l'autre publièrent un livre. Après l'armée, Alain Maffard devint photographe animalier. Dominique Prieur finit sa carrière chez les pompiers de Paris. En 87, la France versa 8 millions de dollars d'indemnité à Greenpeace. Aujourd'hui, l'épave du guerrier de l'arc-en-ciel, le Rainbow Warrior, repose toujours au large d'Auckland. La France a mis des années à se réconcilier avec la Nouvelle-Zélande et même, avant de mettre un terme à ses essais nucléaires, à restaurer son image dans cette région.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves. Encore ruisselant.
Et c'était À l'aube revenant par Francis Cabrel. Vous êtes toujours à l'écoute du service français de la radio SBS ce samedi 10 juillet. Il est 13h37 minutes et 33 secondes. Tout de suite, nous allons avoir une petite pause, mais après la pause, nous aurons notre édition 82 du magazine Europa. Et cette semaine, on revient sur Viktor Orban, mis au banc par ce père à cause de sa politique qui va à l'encontre de tout ce que fait l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Europa Voice, épisode 82. Comme d'habitude, on retrouve avec nous Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Et alors Nathanaël, on commence aujourd'hui avec un sujet sur l'Union européenne, plus précisément sur celui qui est un peu devenu le vilain petit canard de l'Union européenne, le président ultranationaliste hongrois Viktor Orban. La Hongrie et son gouvernement ont fait voter il y a quelques semaines une loi qui assimile l'homosexualité à la pédophilie et qui la rend quasiment illégale. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Bruxelles, en particulier à Ursula von der Leyen, qui a même renoncé hier à se rendre à Budapest comme c'était prévu.
On va effectivement, Grégory, commencer ce nouvel épisode d'Europa Voice par un rendez-vous manqué. C'est celui d'Ursula von der Leyen qui, effectivement, a décalé son étape hongroise de sa tournée européenne, hein, puisque dans le cadre en fait de ses fonctions, la présidente de la Commission se rend dans chaque État, hein, à la rencontre de chaque dirigeant européen pour discuter, pour voir en fait dans quelle manière le plan de relance européen va être appliqué, hein, vraiment pour étudier cette feuille de route avec chaque acteur. Et puis, comme vous l'avez dit, hein, il y a eu le gouvernement hongrois qui avait fait voter une loi assimilant l'homosexualité et la pédophilie. Et la Commission a voulu taper fort, pas que symboliquement, mais Ursula von der Leyen a décidé de ne pas se rendre à la rencontre qu'elle avait prévue avec Viktor Orban, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, jeudi 8 juillet. Et alors, pourquoi c'est important? C'est pas simplement un rendez-vous manqué par rapport à cette loi, pour protester contre cette loi, mais encore une fois, c'est parce que à l'issue de chacune de ces rencontres, on a des avancées par rapport à ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros et la manière dont l'Europe va octroyer des aides qui sont différentes pour chaque pays et comment elle va mettre en œuvre finalement ce plan de relance. Donc véritablement, on passe du statut du refus d'une rencontre à celui d'une conséquence très concrète pour le gouvernement hongrois en termes financiers pour les mois et les années à venir.
Alors justement sur cette question, je vais me faire un petit peu l'avocat du gouvernement hongrois, mais la Commission européenne qui en gros fait un peu de chantage avec le gouvernement hongrois en disant si vous ne renoncez pas à cette loi qui est contraire à nos valeurs, on ne vous donnera pas d'argent dans le cadre du plan de relance. Est-ce que l'Union européenne là ne va pas au-delà de ses prérogatives, c'est-à-dire qu'elle s'immisce sur des questions de politique intérieure?
Non, Grégory, j'ai une réponse assez tranchée à cette question. On a par exemple la commissaire aux valeurs et à la transparence, Vera Jourova, qui l'a dit, hein, l'Europe est prête à invoquer le principe de la conditionnalité pour octroyer à la Hongrie cette aide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un mécanisme de conditionnalité du versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Donc c'est pas un chantage ad hoc, je dirais, c'est véritablement quelque chose qui est prévu, c'est-à-dire que vous devez avoir un État européen qui respecte l'état de droit et les droits fondamentaux pour qu'il ait accès droit à ces aides européennes. La vraie question, Grégory, c'est pas tellement sur cette conditionnalité qui est prévue, c'est plutôt de savoir est-ce que véritablement la loi de Viktor Orban, elle est contre l'état de droit. Et c'est là où le gouvernement hongrois et notamment son dirigeant Viktor Orban va plaider contre et va dire non, moi j'ai rien contre les communautés homosexuelles, moi-même je les ai défendues sous le communisme quand elles n'avaient pas les droits, etc. Donc vous voyez, c'est pas tellement cette conditionnalité, elle est prévue dans les textes européens, c'est plus sur l'appréciation de la loi, et c'est là où, où il va y avoir des complications, et c'est là où le gouvernement va appeler au chantage, pas sur la conditionnalité elle-même, mais sur l'interprétation de la loi hongroise.
Très bien. Alors, sur ces difficultés à communiquer entre l'Union européenne d'une part et le gouvernement hongrois de l'autre, ça s'est vu très nettement il y a quelques jours de ça, pendant les matchs préparatoires de l'Euro, enfin plutôt les matchs de qualification de l'Euro. On a eu tout ce débat sur est-ce que on met les couleurs du drapeau de la Gay Pride sur les stades en protestation à la loi qui vient d'être votée en Hongrie. Et en réponse à tout ça, et notamment aux critiques très virulentes d'Ursula von der Leyen à l'égard de Viktor Orban, ce dernier a fait publier dans 8 grands journaux européens, dont Le Figaro en France, une pleine page de publicité, en gros, où il a souhaité s'adresser directement à la population et faire valoir sa propre vision de l'Europe, avec effectivement des clivages assez nets avec la politique majoritaire actuelle. Comment on peut voir cette tentative, en tout cas cette volonté de communiquer directement avec les Européens, mais le peuple, quoi, en tout cas ceux qui lisent des journaux?
Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, Grégory, dans l'approche et en fait dans la stratégie qu'a Viktor Orban. D'abord, élément de contexte, le premier ministre hongrois, en fait, il a pris, il y a quelques jours de cela, la présidence du groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad. Le groupe de Visegrad, c'est une plateforme de coopération entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Si vous voulez, c'est à l'intérieur de l'Union européenne un sous-groupe de pays qui sont, on va dire, proches géographiquement, d'abord les uns des autres. Hein, c'est plutôt des pays de l'Est qui sont coincés d'une certaine façon entre l'Europe historique et le géant russe. Mais c'est aussi, en termes d'idées et de certaines positions, hein, notamment avec la Pologne, une proximité idéologique. Donc d'abord, en fait, quand Viktor Orban communique aux différents parties prenantes européennes, il le fait au nom de la Hongrie, mais il le fait aussi souvent au nom de ce groupe de Visegrad. Et d'ailleurs, il reçoit plutôt toujours les soutiens des pays affiliés à ce groupe. Juste élément de parenthèse, hein, vous avez d'autres groupes à l'intérieur de l'Europe. On a souvent parlé du groupe des pays dits frugaux, hein, c'est ceux qui était plutôt contre au début le plan de relance tel qu'il a été conçu par Ursula von der Leyen. C'était l'Autriche, les Pays-Bas, etc. Donc, vous voyez, au sein de l'Europe, déjà, vous avez Viktor Orban qui se situe à une certaine partie de l'échiquier. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il faut prendre épiphénomène, ou en tout cas, ce phénomène conjoncturel là, qui est arrivé au moment de l'euro, comme un élément qui s'intègre de manière plus importante dans la position qu'a Viktor Orban vis-à-vis de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que Viktor Orban, il y a encore quelques mois de cela, était affilié au Parti populaire européen, hein, c'est-à-dire qu'il était affilié au plus grand parti, j'allais dire, de droite, en France qu'on appellerait droite républicaine, mais en tout cas de droite non d'extrême droite. Et un de ses positionnements, là, depuis ces derniers mois, dernières années, c'est véritablement de dire que l'Europe, telle qu'elle est actuellement, ne parle plus aux peuples européens, qui a finalement un dictat de la Commission européenne. Et donc, vous voyez, hein, il y a évidemment un côté provocateur, idéologique, de cette approche de la loi par Viktor Orban, mais ça sert aussi toute son entreprise de refonte idéologique de l'Europe et de l'Europe tel que lui la voit. Et donc, cet exercice-là de communication à travers les journaux européens, ça fait partie de ça. Ça fait partie aussi de la vision qu'a Viktor Orban de l'Europe et la vision telle qu'il veut la communiquer.
Alors, justement, c'est le dernier point que je voulais aborder sur ce sujet. Vous disiez qu'il avait le souhait de réformer l'Europe, en tout cas qu'il en avait une autre vision. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un eurosceptique.
Non, ça n'est pas un eurosceptique dans le sens où, encore une fois, il croit à la construction européenne. Et il croit au bienfait d'appartenir à une structure. Mais ça s'explique aussi du fait qu'il a bien vu l'importance d'appartenir à une structure imposante parce qu'il est voisin, à la fois, encore une fois, de pays d'Europe historique, mais aussi du voisin russe. Mais par contre, lui, ce qu'il ne veut pas absolument, c'est de voir une Commission européenne qui serait d'une certaine façon un État supranational. C'est véritablement le combat actuel idéologique de Viktor Orban. Ce n'est pas de sortir de l'Union européenne telle que peuvent le pousser certains dirigeants, notamment les dirigeants suédois ou le dirigeant encore hollandais Mark Rutte, hein, qui lui a dit que si ben, il n'était pas content, il avait qu'à sortir de l'Europe. Enfin, il évoquait même de manière beaucoup plus agressive un départ de la Hongrie de l'Union européenne. Non, Viktor Orban, lui, il n'est pas euro-sceptique, il n'est pas non plus euro-béat, mais ce qu'il veut, c'est imposer sa vision conservatrice de l'Europe où chaque dirigeant européen, finalement, a encore son mot à dire d'un point de vue économique, social et sur les mœurs de société. Et cette loi sur l'homosexualité en est un exemple parmi d'autres. Et c'est là où le combat va être de longue haleine avec les autres dirigeants de l'Union européenne, c'est que ça va être très difficile pour l'Europe de ménager le chèvre et le chou à la fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de pousser Viktor Orban en dehors de l'Union européenne, hein, c'est pas de créer un Brexit hongrois, mais en même temps, c'est d'être cohérent sur l'octroi notamment des aides et sur l'aide que l'Union européenne va apporter aux pays de l'Est, au groupe de Visegrad et à la Hongrie, et de conditionner ces aides à une certaine vision qu'a développée l'Europe. Ce qui est aussi difficile, Grégory, et c'est là où je voulais en venir, c'est que à la fois il y a une plus grande ouverture d'esprit des pays européens et des avancées sociétales ces dernières années, notamment on peut évoquer la loi sur le mariage pour tous. Après, la question, c'est à partir d'où vous mettez le curseur entre finalement les expériences personnelles des dirigeants européens. Je pense notamment à Xavier Bettel, qui n'a pas hésité à s'engager personnellement face à Viktor Orban et expliquer les choses sur un registre très personnel par rapport à son homosexualité à lui. Vous voyez, on ne peut pas faire non plus, l'Union européenne n'est pas un assemblage des expériences personnelles, aussi modernes soient-ils des dirigeants européens. Non, ça doit être fondé sur des textes. Donc c'est là où va se poser la question. C'est OK, on a des textes, on a ce texte sur la conditionnalité, mais est-ce que là, on n'est pas en train de surinterpréter ce texte? Et si on ne le surinterprète pas, mais qu'on veut le renforcer, ben, il va falloir, encore une fois, avec les procédures d'unanimité, ben, trouver des moyens de faire rentrer tout les agneaux dans la bergerie, y compris Viktor Orban.
D'accord, on revient donc effectivement à une lutte qui existe depuis quasiment aussi longtemps que l'Union européenne elle-même, à savoir ceux qui sont privilégient l'Europe des nations face à ceux qui privilégient une Europe fédérale, entité supérieure aux États qui en sont membres, tel que c'est le cas d'ailleurs et tel que c'est prévu. Mais cette notion est régulièrement contestée.
Un dernier point, Grégory, on voit aussi en Europe, ça fait quand même de quelques années maintenant qu'on ne parle plus ou beaucoup moins d'élargissement parce qu'on a encore beaucoup à faire sur le volet approfondissement. Et c'est un des grands enjeux de l'Europe, c'est qu'il y a eu un élargissement exponentiel depuis les années 2000, et que là on voit bien que on a élargi l'Europe. En gros, on est passé très rapidement de l'Europe des 15 à cette Europe des 28-1, cette Europe des 27, mais que maintenant on doit, aligner tous ces pays-là pour que ça reste encore un bloc cohérent et qu'on soit pas tiraillé éternellement entre ces deux visions fédérales et supranationales.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Nathanaël, pour ces éléments d'analyse. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Europa Voice.
Merci beaucoup, Grégory.
Yes. C'était France Gall. Je vous signale que vous êtes toujours à l'écoute du programme français sur la radio SPS ce samedi 10 juillet. Eh bien, ce samedi 10 juillet, nous sommes exactement la veille, donc l'avant-dernier jour de la Nidoc Week. Nidoc Week, c'est la National Aboriginal and Islander Day of Observance. Et c'est une semaine pendant laquelle on célèbre tout ce qui est donc culture aborigène, histoire aborigène et les acquis de peuples aborigènes. Et ce n'est pas une célébration seulement pour les aborigènes, mais c'est une célébration à laquelle se joint toute la population australienne, toutes les couches d'ailleurs de la population, et donc pour marquer son soutien aux peuples aborigènes. Cette année, pour cause de pandémie, bien la plupart des festivités, que ce soit des concerts, des marches, des manifestations et des événements de plein air, ont tous été annulés pour cause de pandémie, mais il y a des activités qui se déroulent en ligne et vous pouvez découvrir certaines de ces activités, notamment en vous rendant sur notre site internet sbs.com.au/french ou le site de la SBS, sbs.com.au, et vous y découvrirez notamment la déclaration Uluru du fond du cœur, une déclaration qui est en fait une proposition au gouvernement australien de reconnaître une voix des peuples aborigènes dans la constitution et d'avoir une représentation substantielle au sein du Parlement. Cela donc est disponible sur notre site sbs.com.au/french et tapez Uluru Statement, vous découvrirez donc quelles sont les demandes. C'est une proposition et il faudra au gouvernement de l'entendre et faire suite à cette demande des peuples aborigènes. Et voilà, ceci nous amène tout doucement vers la fin de cette édition. Je vous propose à présent un rappel des principaux titres de l'actualité. Le nombre de cas de COVID-19 transmis localement continue d'augmenter en Nouvelle-Galles du Sud. Et Pfizer, pour parler avec des responsables de la santé des États-Unis au sujet d'une troisième dose de vaccination, et le variant Delta désormais majoritaire en France. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci de votre compagnie. Prochaine édition du programme en français, c'est dimanche entre 13 et 14 heures et votre programme vous sera présenté par Jean-Noël Ducasse. Je vous souhaite un agréable après-midi et un très bon week-end et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.